Bienvenue dans la troisième saison de Dessine-moi un corps. Et oui, déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, c'est un épisode, une fois par mois, sur une thématique liée au corps et à l'histoire des arts. Bonne écoute! Bisous! Emprunté de l'italien incarnato, mot dérivé de carne, chair, couleur de la chair, rouge rose clair, couleur intermédiaire entre la couleur de cerise et celle de la rose. Le problème dans toute représentation réaliste humaine est la facture de l'incarnat, de cette couleur aux mille nuances qui recrée la vie dans l'espace de l'œuvre. Problème soulevé également, car comme tout un chacun le sait, nous ne sommes pas tous de la même couleur de peau. L'histoire des arts a subi bon nombre de tentatives et de techniques afin de peindre la vie et de la rendre la plus réelle et la plus palpable possible. Et ce n'est pas chose facile. Comment rendre possible toutes les nuances de représentation de la chair ? Certains s'y sont essayés avec un glacis, la technique du sfumato ou du clair-obscur, d'autres en insufflant du bleu et du vert pour faire apparaître les circuits veineux sous la peau. D'autres ont radicalement pris un contre-pied en adoptant une couleur opposée comme les fauvistes. C'est un sujet finalement universel, je trouve, que nous abordons en cette nouvelle année 2024, un sujet dans lequel j'espère chacun se reconnaîtra. En plus, vous verrez, je ne suis pas toute seule dans cet épisode, j'ai une invitée de choix. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne écoute. La chair est le véritable chaos de toutes les couleurs, et pour cela ne ressemble à aucune, mais est leur mélange le plus indissoluble et le plus beau. Citation de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Et pour cause, le vocabulaire de la chair a de quoi faire des nœuds au cerveau. C'est pourquoi à l'époque de la Renaissance, dans les ateliers, c'est le maître le plus souvent qui peignait les carnations de la peau, déléguant à d'autres élèves des éléments du costume ou des paysages. La peau est l'enveloppe du corps. Elle sépare l'intérieur de l'extérieur. C'est ce qu'on donne à voir en quelque sorte. Une construction identitaire à la fois sociale et raciale, pour reprendre les mots d'Anne Lafont, historienne de l'art et directrice d'études à l'EHESS à Paris. Sa peinture donne au regardeur des marques qui vont lui permettre d'affiner le sens qu'il donne au portrait et l'histoire qu'il va raconter. Sa carnation, sa couleur, est donc, comme je le disais, dans certaines sociétés, à certaines époques, un marqueur social. La peau burinée du travailleur, par exemple, s'oppose à la blancheur de la peau d'une noble, volontairement accentuée ou non, et soit dans toutes les sociétés et à toutes les époques. On comprend que pendant des siècles, la peau du visage a été une peau rêvée, une peau qui n'existe pas en vrai. Une peau sans cicatrices, sans boutons, sans rides, sans verrues, sans rougeurs, sans coupes roses, sans poils déplaisants, etc. Non seulement le dessin du visage donnait une image très favorable du modèle, mais la représentation de sa peau en proposait une image totalement idéalisée, comme par exemple dans la peinture pompier de William Bougereau au XIXe, avec cette fameuse carnation de pâte d'amande. Ce qu'il y a de drôle, c'est que dans la société même, l'histoire des carnations rejoint l'histoire des cosmétiques. En cela, Catherine Lanoé, agrégée d'histoire et maître de conférences, a pu l'expérimenter à travers ses travaux. Durant la période moderne, il y avait beaucoup d'enjeux esthétiques et de distinctions sociales. L'utilisation de poudre et de fards dangereux pour la santé de la peau et la santé tout court faisait rage. Le blanc, de céruse entre autres, était censé magnifier une pureté physique autant qu'une pureté morale, la perfection des humeurs, la perfection du comportement. Un teint blanc, donc, et une pointe de rouge pour relever le tout et rappeler la jeunesse et le sang fringant qui court sous la peau, comme on peut le voir dans le tableau de Nicolas de l'Argilière, portrait de la princesse Charlotte Amélia Rakowski. Et de la même manière qu'aujourd'hui on choisit son blush ou son fond de teint, on cherche à créer l'illusion en art. Puisque ne soyons pas dupes, personne n'avait bien évidemment ce teint-là dans la réalité, et cela touche l'art occidental, mais également hors Occident, comme au Japon par exemple. Il existe d'ailleurs un épisode sur ce sujet, à propos des rituels de beauté et du corps au Japon, que j'ai réalisé il y a quelques années, mais toujours disponible à l'écoute. Il y a donc un gouffre entre ce à quoi on veut ressembler, et ce à quoi la société ressemble réellement. Mais que l'on soit sûr d'une chose, la carnation avait toute son importance en histoire des arts et pour cause. Il faudra attendre les mouvements se réclamant du réalisme, voire de l'expressionnisme, pour observer d'autres images de la peau et surtout d'autres carnations. Prenons par exemple le travail de Lucien Freud, un obsessionnel du rendu de la peau. Il cherche à rendre toutes les nuances du corps et que soient rendus visibles les nombreux muscles du corps et du visage, comme dans son tableau « David and Ellie ». Prenons aussi comme exemple le travail de Suzanne Valadon que j'aime d'amour. Les carnations bleutées et roses du corps, soulignées d'un cerne noir, donnent corps et communiquent ainsi une vision radicalement différente de l'esthétisation d'un corps nu, dépourvu d'érotisme. Peut-on parler de la hiérarchie des races et des couleurs ? Eh bien oui. Depuis des siècles, grâce à des clichés stigmatisants et stéréotypés véhiculés, qualifiant les Indiens d'Amérique de, je mets de gros guillemets, peau rouge, les Asiatiques de jaune et les Blancs, bah les Blancs quoi. Mais où est le noir dans tout ça? La représentation des Noirs en histoire des arts couvre un corpus énorme qui oblige sans cesse à redéfinir l'angle sous lequel il va être abordé pour la bonne et simple raison que, au-delà du stéréotype raciste et de la multiplication des figures de pages noires comme jouets européens ou serviteurs, la carnation de la peau noire a été difficile à rendre pour ce qu'elle était, à savoir une carnation et un défi coloriste à part entière, au même titre que celui de la blancheur. En effet, comment montrer la vie battant sous l'épiderme de couleurs ? Les artistes ont montré leur capacité d'observation et de restitution de la peau blanche de manière magistrale, comme je l'ai souligné auparavant, mais rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit de la peau noire. Alors que la traite négrière bat son plein, le regard porté sur les Noirs par la société occidentale change profondément. Pour pouvoir, sans trop état d'âme, faire commerce d'êtres humains, il importe d'en démontrer l'infériorité. Nombreux sont les savants qui, à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, se penchent sur l'origine de la couleur noire des Africains en étudiant tant leur anatomie que leur physiologie afin de parvenir à justifier l'esclavage par une théorie des races qui faisait des Noirs non plus des variétés de l'espèce humaine, mais bien des êtres inférieurs. Je mets encore de gros guillemets. Il est facile ensuite de passer à des représentations qui deviennent ultérieurement des clichés sur les personnages noirs. Du coup, on peut sans problème peindre les Noirs nus ou peu vêtus. Ce n'est qu'au 19e que les choses évoluent quelque peu. Me considérant comme assez peu légitime pour discuter sur ce sujet, j'ai échangé avec une personne totalement légitime, elle, et surtout brillante, qui a répondu à mes questions. Nancy Ba. Donc Nancy travaille sur la représentation en sculpture des Africains fin 19e siècle, précisément entre 1859 et 1931. Sa thèse aborde des questions qui tournent autour de la représentation de la couleur de peau en sculpture, les allégories, mais aussi les sculptures ethnographiques à travers l'œuvre notamment de Charles Cordier, qui s'inspire des théories anthropologues à cette période. Donc déjà, merci beaucoup Nancy d'avoir accepté de venir dans cet épisode. Alors moi, forcément, je rattache tout à mon 18e siècle, parce que c'est le siècle dont je suis en théorie la spécialiste. J'ai dit en théorie. J'ai un petit peu étudié l'angle de représentation des Noirs, les figures dans l'histoire du luxe et dans l'histoire de l'esclavage colonial, avec les colonies antillaises début 19e, à l'époque de Giraudet jusqu'à Guéricault. Je pense notamment au portrait de la princesse Charlotte Amélie Rakowski, de Nicolas de Largillière, dont j'ai parlé précédemment. Mais qu'en est-il du 19e siècle, justement en termes de sculpture, puisque c'est ton domaine de prédilection et ton sujet d'étude ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, et même auparavant, dans les études en histoire de l'art, la figure du noir, elle est surtout traitée dans la peinture, parce que c'est aussi le médium coloré par excellence. Et en sculpture, donc je travaille surtout sur de la stature polychrome. Au 19e siècle, il y a une grosse redécouverte de la sculpture polychrome antique autour des années 1830, si je ne dis pas de bêtises, notamment avec le travail de Quatremer de Quincy qui réalise un ouvrage sur le Jupiter olympien. Et donc, toutes les fouilles archéologiques qui ont lieu en Grèce après la guerre d'indépendance au début du 19e siècle permettent la redécouverte donc, de ces sculptures polychromes, alors qu'auparavant, on pense que la Grèce antique est une Grèce blanche et que toutes les sculptures et tous les bâtiments sont blancs. Philippe Jocquet a écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle « Le mythe de la Grèce blanche », d'ailleurs, qui est un ouvrage très intéressant et très chouette à lire. Et donc, suite à cette redécouverte de la polychromie antique, qui a aussi ses détracteurs, on va avoir plusieurs sculpteurs, donc toujours à partir des années 1830-40, qui vont s'intéresser à la polychromie et qui vont essayer de l'insérer dans la sculpture moderne. Et donc moi, je travaille sur, comme je le disais, sur la figure de l'Africain et du Noir, et j'essaye de voir comment toutes ces questions de carnation vont de pair avec justement la sculpture polychrome ou non, parce que je travaille aussi sur la question du marbre blanc et de la non-couleur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne va pas avoir que de la sculpture polychrome dans le sens où c'est de la sculpture peinte, mais aussi des essais avec des alliages de métaux, donc la question des patines, d'autres techniques qui vont voir le jour comme la galvanoplastie, pardon, avec Charles Cordier qui l'utilise pour des bustes de Chinois. Donc il y a aussi toutes ces questions techniques et de travail des métaux et du bronze qui vont se mettre en place. Et c'est vrai que ça demande de s'intéresser à des choses qui sont un peu différentes de la couleur en peinture, parce que même si on a toutes ces questions de pigments et de colorants, il y a aussi toute la question des couleurs artificielles et de toutes les recettes de patines et de patinage de bronze ou de plâtre qui demandent aussi de se pencher un peu sur les traités de chimie et de bronzier d'art.
Alors tu l'as dit, tes travaux portent plus spécifiquement sur la sculpture polychrome. J'imagine que travailler sur tout ça doit être assez difficile puisque les œuvres d'art représentant des figures noires ont été à la fois fétichisées, je pense à l'art décoratif notamment, ou alors neutralisées par les institutions muséales sans forcément de contextualisation autour. Comment ne pas tomber dans l'écueil en fait ? Je pense aussi à l'exposition Le modèle noir à Orsay, qui avait le mérite de se pencher sur des problématiques raciales et esthétiques avec les modèles qui ont enfin un nom. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ?
C'est vrai que l'exposition de modèles noirs à Orsay en 2019, ça a été, en France en tout cas, l'une des expositions majeures sur le sujet. C'est vrai que sur la représentation des noirs dans l'art occidental, la seule qui me vient à l'esprit qui a eu lieu en France, c'était Être noir au XVIIIe siècle, qui a eu lieu au musée de la Rochelle, il me semble. Que c'était à La Rochelle, mais je me souviens plus de l'année. Et c'était une exposition qui se penchait peut-être plus sur la peinture et moins aussi sur l'aspect social qu'on a pu voir avec la question de la profession de modèle à Orsay. De toute façon, moi je suis pour toujours plus de contextualisation historique dans les musées. Parce que, selon moi, les œuvres, elles sont réalisées dans un contexte précis. Et c'est le contexte historique et social qui permet aussi la réalisation de ce genre d'œuvres. Et c'est, je pense, d'autant plus vrai pour toutes les questions d'art décoratif, comme tu l'évoquais. Toute la question des représentations de noir dans le contexte vénitien au XVIIIe siècle, qu'on retrouve en pied de table ou de colonne, il me semble. Et c'est vrai que c'est aussi lié peut-être au passage d'esclaves noirs à Venise, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, si dans les expositions, on n'aborde pas ce contexte-là, c'est vrai qu'on passe à côté, d'une grande compréhension de l'œuvre. Et dans le cadre des musées qui traitent peut-être de périodes plus récente, encore une fois je reviens au 19e siècle évidemment, c'est vrai que la question est peut-être pas un peu plus compliquée, mais on arrive dans des considérations différentes. C'est vrai que après en France en tout cas, après 1848, on a plus tant ce contexte de l'esclavage, même s'il va revenir dans certaines représentations.
Il n'y avait pas eu une exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac aussi, je crois, je ne sais plus trop.
L'exposition qui a eu lieu au musée du Quai Branly il y a quelques années, qui s'appelait Peinture des lointains, et qui exposait conjointement les représentations des habitants des colonies françaises à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mais aussi la production justement de ces habitants locaux qui étaient ensuite insérés dans tout le système académique des beaux-arts avec des institutions similaires qui étaient créées, notamment par exemple à Madagascar ou certains artistes qui venaient en France. Je pense que le genre d'exposition qui demande effectivement une grosse contextualisation historique. Je pense que sans cette contextualisation, on resterait peut-être trop en surface et surtout, on n'irait peut-être pas plus loin que la seule question esthétique, en se disant encore aujourd'hui que ce sont des sujets exotiques et qui plaisent justement pour cette enveloppe-là de couleurs ou de sujets qui sortent un peu de l'ordinaire, notamment au XIXe siècle où on a quand même, en tout cas, pendant la première moitié, pendant la première moitié, beaucoup de sujets académiques ou antiques. Et je pense qu'en restant en surface, on n'arrive pas peut-être au véritable problème qui est finalement la question de la race.
Est-ce que tu peux me parler de la question de la carnation en art, puisque c'est quand même le sujet de cet épisode, et plus spécifiquement parce que tu avais commencé à le faire quand on s'était vu la première fois, et tu as titillé ma curiosité, de la théorie des marbres de couleur et les rapports matériaux-carnation, si tu veux bien.
C'est vrai qu'en sculpture, de toute façon, il y a toujours un. On peut toujours trouver un rapport, je trouve, avec la question de la couleur de peau. Et c'est d'autant plus vrai avec la question de l'Africain. En travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte que, du coup, entre 1959 et 1931, on a énormément, voire quasiment que des représentations d'Africains qui sont réalisées dans des marbres colorés, dans du bronze, avec de la terre cuite qui est ensuite peinte ou des plâtres patinés. Et que toutes les représentations en marbre étaient plutôt des représentations allégoriques ou des représentations qui prennent en compte les sujets égyptiens ou antiques. Ce que j'ai trouvé assez intéressant. Et dans le cas de portraits ou de scènes de genre, on va toujours avoir un bronze qui est patiné ou alors des associations de matériaux de couleurs différentes. Encore une fois, ici, je suis obligée de revenir à Charles Cordier, notamment à son Nègre du Soudan, c'est encore le titre qui est exposé au musée d'Orsay et qui est réalisé avec de l'onyx et du marbre coloré. Et c'est vrai que avec ce genre de production qu'on retrouve aussi chez un sculpteur italien qui s'appelle Pietro Calvi, qui représente beaucoup de personnages de théâtre, comme Othello de la pièce éponyme de Shakespeare, ou encore Célica, qui est le personnage principal de la pièce L'Africaine, qui est jouée à Paris pendant le Second Empire. On va toujours retrouver les visages qui sont taillés dans du marbre noir ou dans de l'onyx, comme je disais, ou qui sont faits en bronze. Et tout le costume qui est réalisé dans du marbre blanc. Donc ça fait enfin, c'est vrai que ça fait ressortir tout de suite la carnation. C'est quelque chose qui nous frappe et on sent tout de suite qu'il y a une intention finalement derrière l'utilisation de ces matériaux autre que le fait de jouer avec la polychromie pardon, des marbres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories et d'essais au XIXe siècle. Le principal, c'est celui de Charles Blanc, qui écrit dans la grammaire des arts et du dessin que tailler un noir dans du marbre noir, c'est juste de la polychromie naturelle en fait. Et c'est une sorte de mimétisme, une représentation réaliste, on dira. Et c'est vrai que ça rend la chose d'autant plus intéressante d'avoir aussi cette réflexion théorique sur la question. Donc il y a un soin extrême qui finalement a apporté à la matérialisation de cette carnation-là. Et ce qui est d'autant plus intéressant, toujours pour cette polychromie naturelle, parce que ce sont des marbres qui sont naturellement colorés, c'est que par exemple, encore une fois, Charles Cordier utilise des marbres algériens. Donc encore une fois, on va avoir ce rapport entre finalement l'origine géographique du matériau et celle du sujet représenté. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu plus tard en Belgique avec la sculptrice Jane Terkaps qui va au Congo dans les années 30 et qui réalise des bustes de femmes Mangbetu, qui est une ethnie de l'est du Congo, si je dis pas de bêtises, dans du granit, et c'est un matériau qu'on retrouve en abondance dans cette région-là. Donc encore une fois, on va avoir ce rapport entre le matériau et la couleur.
Et qu'en est-il des modèles noirs et la représentation de leurs traits en sculpture? Parce qu'on n'en parle franchement pas beaucoup, je trouve.
Au 19e siècle, il y a beaucoup de travail d'après-modèle. Il y a beaucoup de modèles connus à Paris, comme ça a été mentionné effectivement dans l'exposition du musée d'Orsay, comme l'or qui pose notamment pour Manet, pour l'Olympia en 1863, ou Joseph et Madeleine, qui sont des modèles cités effectivement dans cette exposition. Beaucoup de sculpteurs adoptent les méthodes de l'anthropologie physique, comme l'observation, les mesures, et ils sont même commissionnés par les muséums d'histoire naturelle pour créer des galeries anthropologiques. Et c'est vrai que là, la sculpture, ça va devenir finalement un médium scientifique, parce que quelque part, le beau, ça peut aussi être didactique finalement. Et donc, il y a un grand intérêt pour les traits. Pour les traits physiques des Africains. Donc, encore une fois, Charles Cordier a réalisé énormément de bustes pour la galerie d'anthropologie du Muséum d'histoire naturelle à partir de la fin des années 1850. Et là, ces bustes, qui sont aussi les mêmes qu'on retrouve notamment au musée d'Orsay dans la grande allée centrale, on va les retrouver au Muséum d'histoire naturelle, mais sans polychromie naturelle cette fois-ci. Parce qu'on entre dans le domaine scientifique. Et lui qui travaille d'après modèle, notamment avec le modèle Abdallah qui est très, très connu, il donne une conférence à la Société d'anthropologie où il dit que ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni toutes les caractéristiques les plus belles de chacune des ethnies finalement qui sont représentées, un peu sur le modèle du canon de Polyclète, selon lequel le plus bel homme, c'est pas celui qui a les plus beaux traits physiques, mais ceux qui sont les plus harmonieux. Et il y a aussi, toujours dans le domaine de l'anthropologie, cette intention de montrer le réel, puisque là on est dans une dimension didactique où il faut apprendre aux gens ce qui est un digne représentant des différentes races humaines, comme on pense encore à ce moment-là. Et on va avoir un modèle similaire à Chicago en 1933, avec l'ouverture d'une exposition qui s'appelle The Races of Mankind, avec des sculptures réalisées par Malvina Hoffman, qui a été une élève d'Auguste Rodin au début du XXe siècle. Et elle va travailler constamment d'après modèle. Donc des modèles qui passent dans son atelier ou des modèles qu'elle voit directement lors de ses voyages en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord et aussi à Paris, notamment pendant l'exposition coloniale de 1931 où il y a énormément de représentations différentes, notamment avec le zoo humain de la Porte Dorée ou du Bois de Vincennes, si je dis pas de bêtises. Et elle encore a le souci de la couleur. Elle écrit elle-même dans un de ses ouvrages sur la sculpture, c'est qu'elle cherche à créer des patines pour ses bronzes qui sont similaires à la couleur de peau des personnes qu'elle représente. Donc on va avoir beaucoup en sculpture au 19e siècle des représentations sensibles dans les traits physiques puisqu'elles sont faites d'après modèle. Mais ça n'empêche en rien de considérer le fait que ce soit des représentations qui sont faites dans un contexte de domination et avec des idées aussi sous-jacentes racistes, malheureusement. Et à cette période, le public a goût pour les figures de l'altérité, notamment au salon, et c'est aussi le développement des bronzes d'édition. C'est-à-dire que ce sont des grands bronzes qui finalement sont répliqués en miniature quelque part et que chacun peut avoir chez soi. Donc c'est vrai que les sujets pittoresques et dits orientaux sont peut-être plus appréciés. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui sur le marché de l'art, on a énormément de petits bronzes représentant des Noirs, des Arabes. Des odalisques et j'en passe. Et même si beaucoup de ces représentations sont faites d'après modèle, elles sont toujours aussi calquées à un imaginaire exotique finalement. Mais on va jamais non plus avoir de traits grossiers dans la sculpture des beaux-arts, puisque le but, c'est d'avoir des belles représentations et quelque chose d'esthétique. Ce qui est aussi intéressant à prendre en compte pour cette question des traits physiques, c'est la question des allégories des continents. Et l'allégorie de l'Afrique a une longue histoire derrière elle. C'est vrai qu'au 19e siècle, on n'aborde pas forcément ce procédé de la même manière que pendant la période moderne, parce qu'on a l'impression qu'il disparaît un peu. Mais pendant le Second Empire, donc sous Napoléon III, on va avoir un regain d'intérêt pour l'allégorie, et notamment pour l'allégorie de l'Afrique, parce que c'est aussi le début du Second Empire colonial. Qui s'oriente plus donc vers la conquête de l'Afrique avec d'abord la percée en Algérie en 1830, puis ensuite la transformation des colonies de comptoir en Afrique de l'Ouest en colonies de peuplement un peu plus tard. Et donc l'allégorie de l'Afrique qui au XVIIe siècle pouvait avoir des traits grossiers et assez stéréotypés. Va prendre un physique un peu différent parce qu'elle est censée être plus attirante et donner l'image d'un continent prospère que la France aurait réussi à dominer. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver tout le temps. Je pense par exemple au plafond de la bourse de commerce avec toutes ces allégories des continents où les représentants de l'Afrique ont un visage presque bestial. Dans le même ordre d'idées, à Tervuren, à l'Africa Museum en Belgique, qui aujourd'hui est abrité par le bâtiment qui a été réalisé pour l'exposition universelle de 1897 et qui montrait les produits du Congo avec en supplément un zoo humain. On retrouve le même genre de sculptures ethnographiques qui auparavant étaient exposées dans la rotonde et qui aujourd'hui sont présentées dans un dépôt avant l'entrée de l'exposition avant l'entrée de l'exposition permanente. Et donc ces œuvres, elles ne sont plus exposées dans le musée en lui-même, mais dans un dépôt avec toujours une contextualisation. Et il me semble que c'est aussi une solution peut-être à prendre en compte. C'est vrai que c'est un musée qui a subi une grande réorganisation lors des années précédentes, parce que c'est vrai que c'est un héritage colonial qui est assez important. Mais je trouve que c'est une idée qu'on peut effectivement prendre en compte pour l'exposition de ce genre d'œuvres-là, qui ont quand même pendant longtemps qu'on voyait un certain nombre de stéréotypes autour de la figure du noir et de l'Africain.
Et c'est quoi le fameux figure du noir comme figure de repoussoir? Est-ce que tu peux développer un petit peu cet aspect pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle en fait?
Dans les arts visuels, la figure du noir, elle apparaît aussi comme une figure repoussoir, c'est-à-dire qu'elle permet de la mise en valeur des figures blanches. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres peintes, comme un procédé artistique qui met finalement oui, en valeur la figure principale. On le retrouve chez Manet dans l'Olympia, chez Vallotton aussi, bien plus tard, dans son œuvre qui s'appelle La Blanche et la Noire et qui ne laisse rien à l'imagination du coup. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en sculpture avec une œuvre d'un sculpteur qui est peu connu, qui s'appelle Émile-Joseph Carlier, et qui sculpte une œuvre qui s'appelle Le Miroir, où on a deux figures, une en marbre blanc et une en bronze et onyx. Ces deux figures donc se répondent et permettent aussi de voir effectivement, c'est un procédé qui n'est pas le propre de la peinture et qu'on va retrouver dans la sculpture qui est aussi considérée un peu comme le médium du dénuement, en tout cas dans la sculpture académique.
Est-ce que tu peux me citer deux recommandations culturelles sur le sujet, ou plus, hein, ou deux auteurs qui te semblent particulièrement importants à mentionner ici.
En recommandation, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sur un sujet similaire, l'ouvrage d'Anne Lafont paru en 2019, L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières, qui, je trouve, est un bouquin qui apporte beaucoup bah, justement sur la représentation de l'Africain, mais aussi sur les questions de couleur et de coloris, surtout en peinture et dans les arts graphiques. Mais c'est vraiment un ouvrage, majeur, même en termes de méthodologie, et qui est aussi, je trouve, assez accessible peut-être à des personnes qui ne sont pas spécialistes de l'histoire de l'art. Et tout aussi intéressant, il y a le livre paru en, bah, pareil, je crois, non, en 2021, de Françoise Vergès et Sumboy Vrenon, qui s'appelle « De la violence coloniale dans l'espace public, visite du triangle de la Porte Dorée à Paris », et qui là, cette fois, s'intéresse à toutes ces statues et ces monuments qui ont été réalisés dans le cadre de l'exposition coloniale de 1931, et qui s'intéresse aussi à des figures controversées comme Gallieni ou à des massacres coloniaux peu connus comme celui de Thiaroye-sur-Mer. Et une autre recommandation, ce serait la pièce de Rebecca Chaillon, Carte noire nommée Désir, que je n'ai pas encore vue, mais que je vais voir dans quelques jours, et dont j'ai énormément entendu parler, et qui porte sur les clichés et les fantasmes autour du corps de la femme noire.
Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui on banalise et on lève les tabous en matière de couleur de peau et de carnation, du moins en histoire de l'art. J'aime le regard de la photographe Angelica Das avec son projet Humanae. Depuis 2012, la photographe brésilienne œuvre à la création d'une mosaïque géante composée de milliers de portraits humains dont les nuances de peau sont représentées à la manière du nuancier Pantone, un système de codage universel des couleurs. En sélectionnant un échantillon de 11 pixels sur le visage du sujet photographié, l'artiste peut extraire la teinte de peau exacte et l'associer au numéro Pantone correspondant à la couleur obtenue. Ce projet monumental révèle la mixité et l'étendue chromatique de la peau humaine à l'échelle planétaire et confronte l'idée répandue d'une couleur chair unique. À travers son travail, Angelica Das a ainsi démontré que tout compte fait, les quatre couleurs noir, jaune, blanc et rouge n'existaient tout simplement pas. J'ai aussi retenu, parmi tant d'autres, le travail de Peter Hugo. À l'inverse de Angelica Das, il réalise des portraits en noir et blanc qu'il manipule de façon à ce que les teintes de la peau reflètent leur pigmentation et soient aussi accentuées que possible. Sur les visages, les imperfections de la peau sont apparentes. Rides, veines, taches de rousseur et de vieillesse. Ni noir, ni blanc, les modèles de Peter Hugo, tous originaires d'Afrique du Sud, pays où la couleur de peau reste quand même au cœur des conflits, prennent ainsi une apparence assez irréelle. Mentionnons enfin le travail de Harmonia Gonzalez, artiste afro-cubaine, qui revisite les tableaux célèbres de l'histoire de l'art et place des hommes et des femmes noirs à la place des blancs, comme dans son œuvre Creation of God, datant de 2017. Bien sûr, la question de la couleur de peau touche également d'autres sphères. C'est sans compter la fétichisation des corps racisés et l'exotisation du corps des femmes que cela engendre, les renvoyant ainsi au statut d'objet fantasmé. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, que ce soit peintre, écrivain ou musicien. Chez Marguerite Duras, dans L'Amant, on retrouve cette fétichisation de la couleur de peau sur un homme cette fois-ci. L'amant chinois est qualifié de chinois grand, il a la peau blanche des Chinois du Nord, pas un corps indigène. Dans un autre sens, c'est assez fou quand on regarde par exemple les représentations d'odalisques du XVIIe ou du XIXe siècle, elles sont représentées d'une blancheur de lait, ce qui bien évidemment est une manière de créer un fantasme sur une couleur de peau à travers un mythe. Julie de Vénus épilait-elle la chatte avait d'ailleurs très bien abordé cette thématique dans un de ses épisodes, cette fois évoquant le regard blanc sur le corps noir. Figurez-vous que moi aussi j'ai des recommandations culturelles pour vous, et oui. Cet épisode s'inscrit dans la longue lignée de personnes fabuleuses qui ont travaillé sur ces sujets de carnation. Je peux vous citer par exemple l'épisode « Illustration, les traits du racisme » de Kif Taras. D'ailleurs, absolument tous les épisodes de ce podcast chez Binge Audio sont d'utilité publique. Et aussi le podcast « La couleur de l'art », écrit et réalisé par Melissa Andriana Solo, dont j'aime beaucoup, beaucoup le travail. L'histoire des carnations va de pair avec l'histoire des arts. Comme bien souvent, on se rend compte aussi que ces deux histoires sont liées avec l'histoire des sociétés. J'aime à penser que l'art reflétera un jour une société où la palette de couleurs sera acceptée sans discrimination aucune, puisque nous sommes chacun et chacune une couleur sur une palette d'artistes. Vous me croyez idéal ? Peut-être. N'empêche que ce sujet permet de commencer 2024 d'une manière que j'espère douce pour tout le monde. Merci encore à Nancy d'avoir accepté ma proposition de venir échanger sur ces thématiques et de m'avoir accueillie pour enregistrer dans son cocon d'appartement avec Oscar le chat. Merci aussi à elle pour la copieuse bibliographie qui m'a servi pour écrire cet épisode. Je vous souhaite une très belle année à venir. Prenez soin de vous et à la prochaine !